RFI.
You know, our plant was shelling more than 15 times.
Notre usine a été bombardée plus de 15 fois. C'est la guerre. Mais il faut se rappeler qu'on ne continue pas à produire simplement pour que les gens aient un salaire, un revenu. Pour nous tous, c'est une manière d'échapper à ce cauchemar. Les gens ont besoin de retrouver une forme de routine, comme avant la guerre. C'est cette routine qui nous permet d'oublier un peu ce cauchemar que nous vivons.
Grand reportage.
L'Ukraine est entrée le 24 février dans sa troisième année de guerre. Un conflit au lourd bilan humain, mais aussi économique. Après l'effondrement des premiers mois, le pays a renoué avec la croissance en 2023, même si la situation reste fragile. Entre les soldats sur le front et l'exil de 6 millions de personnes, le pays fait face à des difficultés de main-d'œuvre. Beaucoup d'Ukrainiens sont restés, résistent en travaillant. Entreprises et salariés ont dû s'adapter. L'Ukraine, une économie en guerre, c'est un grand reportage de Nathanaël Vitran et Jadel Koury.
Nous sommes à Nikopol, c'est une ville moyenne en Ukraine située sur les bords du fleuve Dniepr. Du temps de l'Union soviétique, c'était un immense centre industriel et métallurgique. Des dizaines de milliers d'ouvriers s'activaient ici dans les usines autour de nous. Leur production alimentait toute l'URSS. Aujourd'hui, beaucoup de ces usines construites sous Staline tombent en ruine, mais on y trouve encore un des principaux producteurs en Europe de tubes en métal.
My name is Yuri Atanasov. I am a CEO of company Centravis.
Je m'appelle Yuri Atanasov. Je suis le PDG de l'entreprise Centravis, ici à Nikopol.
Seamless. We produce these tubes and pipes.
Nous fabriquons des tubes en acier inoxydable. Nos tuyaux sont utilisés dans des environnements à très haute température, très corrosifs, à très forte pression, ou bien encore mieux, quand il y a une combinaison de ces trois facteurs. Donc, on les retrouve dans les secteurs de l'énergie, du nucléaire, du gaz, du pétrole, dans l'automobile. Par exemple, si vous regardez le marché européen, on retrouve les tuyaux que nous fabriquons ici dans une voiture sur quatre.
Là, on est en plein milieu de l'usine. On est dans ce qu'ils appellent la chambre chaude. On comprend bien pourquoi. Les tuyaux rentrent, ils sont chauffés à très très haute température. Ils sortent rouge volcanique quasiment quand ils sortent des fours. Et ensuite, ça permet ensuite de les allonger à la bonne forme. Et puis, ils entrent dans la phase suivante du processus industriel.
Ce bâtiment, c'est celui qui a été le plus bombardé. Vous voyez le plafond. Il manque un morceau. Le béton est tombé.
Il y a un morceau du toit qu'on voit bien là-haut qui manque. Et ça, c'est le résultat d'un bombardement.
Le tir a touché le toit, mais regardez. Quelques centimètres plus bas, et il passait par la fenêtre de l'usine, vous voyez. C'est ça le vrai danger. Parce qu'alors, les éclats d'obus se retrouveraient à l'intérieur.
La particularité de Nikopol et de l'usine Centravis, c'est que les forces russes se trouvent juste en face, de l'autre côté de la rivière, où elles occupent la fameuse centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
At the end of the day,
nous sommes dans une situation unique ici à Nikopol. D'un côté, nous sommes relativement à l'abri d'une invasion terrestre, mais en même temps, nous sommes à moins de 10 km des troupes russes. Nous sommes à portée de tirs d'artillerie, à portée de drones. Je me souviens du jour où les Russes ont commencé à nous tirer dessus depuis l'autre rive. C'était le 12 juillet 2022, je crois. Les gens ici ont besoin de gagner leur vie. On leur offre du travail, un salaire. Leurs parents sont ici. Et vous savez, les personnes âgées ne veulent pas partir. Ils resteront dans leur maison jusqu'à la toute dernière minute. Et c'est à cette situation que nous devons nous adapter.
Un peu partout dans l'usine, on trouve donc des abris de fortune, sorte de tipis renforcés de sacs de sable, comme derrière Alexander, occupé à surveiller la ligne de production dont il a la charge.
C'est un abri en cas d'attaque. S'il y a une explosion au niveau de l'usine, on peut venir se protéger ici.
Regardez, vous voyez cet espace vide ? Nous avons délocalisé une partie de la production à Oujgorod, à l'ouest.
Il y a une partie de la production, on voit la photo, qui a été relocalisée dans une usine plus à l'ouest de l'Ukraine, à la frontière slovaque, là où c'est évidemment beaucoup plus en sécurité. Il n'y a pas d'attaque de missiles ou de raids aériens ou de bombardements tous les jours comme ici à Nikopol. Une centaine d'ouvriers, d'accord, qui travaillent là-bas.
C'était à la fois une manière de rassurer nos clients sur notre capacité à continuer à produire malgré la guerre et le moyen d'offrir une porte de sortie à nos employés qui ne voulaient pas rester à Nikopol.
Combien d'employés avez-vous ?
1200.
1200, c'est une lourde responsabilité dans une zone de guerre.
Oui, quand le conflit a démarré, je me suis posé la question. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas forcer mes employés à rester, à travailler. Et puis j'ai compris que cela devait être leur décision. Si certains ont besoin de s'éloigner, de partir, nous ne mettons pas fin à leur contrat, on le met simplement en pause. Et beaucoup de nos salariés, après 6 mois, 9 mois, ont fait le choix de revenir. Mais ça doit être leur choix. Quant à moi, je dirigerai cette entreprise jusqu'au dernier opérateur.
My position. I will run the company to the last operator I have here.
Est-ce que vous ne craignez pas que vos clients se disent c'est trop risqué et ne se tournent vers d'autres fournisseurs ?
Ah oui, ils l'ont beaucoup fait en 2022. La plupart. Beaucoup de nos clients ont cherché un deuxième ou un troisième fournisseur.
Et
c'est quoi ? Régional.
On entend une alarme qui sonne là.
Yeah, but this is a siren saying that this is.
Oui, mais c'est pour prévenir d'un risque d'attaque de missiles sur toute la région de Dnipro. Paradoxalement, nous sommes plus en sécurité ici. Les attaques de missiles ou de roquettes tirées par des sous-marins ou l'aviation russe visent rarement Nikopol, vu que nous sommes à portée d'artillerie.
Airplanes.
Ah, ça veut dire que vous avez appris à faire la distinction?
Yeah. Yeah, so our concern is a local.
Oui, l'alarme sonne pareil, mais on peut voir sur nos téléphones de quoi il s'agit précisément.
The risk we have.
Silicon Valley style,
ouais.
C'est presque la Silicon
Valley
ici.
Oui.
C'est très
yes,
vert.
Yes, we have a lot of.
Loin, très loin des hauts fourneaux de Nikopol, nous voici à Kiev, dans les locaux de Plantin, une start-up de la capitale ukrainienne qui propose une application pour amateurs de plantes vertes. Ses fondateurs revendiquent 24 millions d'utilisateurs. Elisabetta Yavorska nous fait la visite.
Ici, c'est notre salle de production.
On est dans une pièce à part avec du matériel vidéo, énormément de plantes vertes. Vous filmez les plantes ici ? You film the plant here ?
Oui, je peux vous montrer à quoi ça ressemble sur notre compte TikTok.
Un travail d'influenceuse, mais pour les plantes. So here, the influencers are the plants. Yes.
À la tête de la start-up, les frères Grignette, Dima et Michael.
Après l'invasion russe, notre priorité a été de mettre notre personnel à l'abri. Nous avons évacué Kiev pour nous éloigner du front et nous installer plus à l'ouest, près de la frontière avec la Hongrie et la Pologne. Nous sommes restés un mois et demi environ, et puis nous sommes rentrés, parce que c'est notre devoir de protéger notre terre. Quand le gouvernement nous appellera, nous irons, et il faut que nous soyons prêts. En attendant, si nous pouvons travailler, payer nos impôts et soutenir le système financier ukrainien, très bien. Mais quand le moment sera venu, nous irons.
Donc les deux PDG de l'entreprise sont prêts à partir à la guerre?
Bien sûr. Nous sommes ukrainiens, c'est notre devoir.
Dans un garage, ils ont ouvert la cloison. Et on se dirige vers le bunker, l'abri anti-aérien que l'entreprise a loué en cas d'attaque.
Ah oui, c'est vraiment dans une cave, quoi. Donc c'est la salle de réunion la plus déprimante que j'ai jamais vue.
Il y a internet, de quoi grignoter, de l'eau. Et ça, là, c'est pour mettre le chauffage, parce qu'il fait très froid ici.
Il y a quelques chaises de bureau, quelques chaises de camping et une longue table dans ce qui ressemble à une cave.
Couverture.
Mais vous travaillez vraiment quand vous venez ici?
Bien sûr, le travail ne s'arrête jamais, même pas en cas de raid aérien.
Autre quartier de Kiev, autre entreprise informatique, Developex. 23 ans d'existence, 400 employés, mais une poignée seulement dans les bureaux.
Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de manteaux accrochés à l'entrée.
Heureusement pour nous, il y a eu le Covid il y a 4 ans. À l'époque, tous nos employés ont commencé à travailler de chez eux.
Mikhail Makarov est l'un des fondateurs et l'un des dirigeants.
Avant la guerre, nous avions 3 bureaux différents dans le quartier. Maintenant, nous n'en avons plus que 2.
Vous avez dit quelque chose de frappant à l'instant. Vous avez dit « heureusement, il y a eu le Covid ».
Oui, heureusement qu'il y a eu le Covid. La pandémie nous a préparés à la guerre. Tous les processus étaient en place pour permettre aux gens de travailler à distance. Sans cet entraînement, il aurait été beaucoup plus difficile pour nous de nous adapter à la guerre, surtout au début.
15 des employés de Developex servent à présent dans les rangs des forces ukrainiennes, tous volontaires. Et l'armée fait parfois appel aux compétences de ceux qui restent.
Tout le monde en Ukraine est impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'effort de guerre. Notre entreprise ne fait pas exception. Nous faisons diverses choses, nous aidons avec les drones, nous lançons des cyberattaques pour perturber la chaîne de production de missiles russes, ce genre de choses.
Bombs and rockets for Russia.
C'est quelque chose que vous faites, vous, personnellement?
Je ne peux pas vous donner plus de détails.
Certains entrepreneurs audacieux parviennent à tirer profit de la situation. Un peu partout dans le pays, les magasins de fournitures militaires fleurissent. Et puis, dans le grand hangar d'une zone industrielle à moitié abandonnée de la capitale, nous retrouvons Sergueï Zaharine, occupé à découper les plaques de métal qui composent ce qui ressemble à un coffre-fort de la taille d'une penderie, ce qu'il a baptisé « capsule de vie ».
Je suis un simple entrepreneur. Avant, je produisais des outils pour travailler le bois, mais la situation m'a forcé à m'adapter. Maintenant, je fabrique des abris pour protéger mes concitoyens.
Voilà, là on va pénétrer à l'intérieur de ces capsules de vie. Alors il y a de l'écho, hein, vous allez l'entendre. C'est une espèce de bunker de poche, de bunker IKEA comme ils disent. C'est fait de plaques de métal de 5 mm d'épaisseur avec des gros boulons.
C'est très solide. En cas d'attaque de missiles russes, la capsule doit être capable de résister à n'importe quelle chute de débris, même si toute la maison lui tombe dessus.
La sonnerie de son téléphone interrompt la conversation. Des missiles russes ont frappé Kiev ce matin-là. On me passe des commandes, explique-t-il, avant de s'empresser d'ajouter... Malheureusement. Et n'allez pas lui demander si la situation est bonne pour les affaires.
Non, ne dites pas ça. Le coût d'une capsule de vie, c'est 53 000 hryvnia. Et je les vends 70 000 moins les taxes. À ce prix-là, ce n'est plus du business, c'est de la charité.
Voilà, ici c'est le terminal cimentier. Les wagons sont là-bas.
Oleksandr Goura, il est le directeur de Vatsen Road, l'entreprise qui a réalisé ce chantier en banlieue de Kiev pour le compte du cimentier CRH.
Là, c'est la plateforme de déchargement des trains. Le ciment est déchargé ici.
Et ensuite, tout le ciment est transporté dans les énormes silos qui ont été construits là tout récemment. Ensuite, le ciment, une fois qu'il a été stocké dans ces énormes silos, il est transporté dans d'autres plus petits où il peut être déversé à l'intérieur de camions qui ensuite vont se rendre sur les différents chantiers de Kiev et sa région pour alimenter ces chantiers en ciment.
Ce terminal cimentier est un chantier à plusieurs millions d'euros. Il a fallu achever les travaux malgré la guerre.
Au début de l'invasion russe, le chantier s'est complètement arrêté. Et puis en août, le client nous a autorisé à reprendre les travaux, mais à une condition, que les ouvriers s'abritent à chaque alarme. Ça a beaucoup affecté le chantier. En 2023 et 2022, les sirènes sonnaient 4 à 5 fois par jour. C'était difficile de travailler dans ces conditions. Mais le client tenait à la sécurité des ouvriers. Et donc, nous avons respecté les consignes.
À Kiev, comme ailleurs, l'invasion russe en février 2022 a mis un coup de frein brutal à de nombreux chantiers.
Quand la guerre a commencé, la visibilité, c'était un quart d'heure.
Ignace Hertley est français, il est le fondateur et l'actionnaire unique de Watson Road.
Là, on a une visibilité qui reste extrêmement courte. On navigue avec une visibilité de 2 à 3 ou 4 mois. Et ce n'est pas assez dans le secteur de la construction. On construit si on a une visibilité de 15 ans. L'investisseur, notre client, réfléchit à un horizon 15 ans. L'investisseur privé, aujourd'hui en Ukraine, tel qu'on le connaît dans la plupart des pays qui sont en paix, cela, il n'y en a quasiment pas en Ukraine.
Dans ces conditions, vous n'avez pas été tenté de partir, de vendre ?
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment la valeur de votre asset diminue quand un tank russe arrive dans le paysage, quoi. Donc c'est impossible à revendre. À ce moment-là, avec des missiles qui volent et des tanks russes partout, non, ça se vend très mal, hein. Mais après, au final, notre chiffre d'affaires en 2022 a été plus élevé qu'en 2021. Il a redoublé en 2023 et il va quadrupler là en 2024. Donc, du point de vue des affaires, je ne peux pas me plaindre. J'étais au bon endroit au bon moment. Même si cette tournure elle est peut-être un peu mal adaptée au contexte, on aimerait que le contexte soit plus heureux pour l'ensemble de la société et de l'économie, mais on fait partie de ceux qui arrivent à croître contre le marché. Ce n'est pas un mérite. Si je dirigeais une compagnie aérienne, je serais sans doute en train de pleurer.
Les grandes institutions internationales, l'ONU, la Banque européenne de développement et bien d'autres, ont pris le relais des investisseurs privés. Les perspectives liées à la reconstruction sont énormes. Et puis, il y a les besoins de l'armée sur le front, à tel point que la main-d'œuvre risque de manquer.
La mobilisation, c'est un concurrent contre lequel on ne pourra jamais lutter. On a eu une première vague de mobilisation dès le début de la guerre, mais c'était des mobilisations volontaires. On a perdu peut-être 80% de nos ouvriers qui sont partis d'eux-mêmes dans l'armée. Dans un secteur comme la construction, qui est traditionnellement masculin, on est quand même sous le risque de voir nos ouvriers recrutés. Et c'est des ouvriers qui ne sont pas remplaçables par un personnel féminin ou par des gens qui ne sont pas mobilisables, c'est-à-dire qu'il y a des gens très jeunes ou des gens très vieux. Comment on se prépare pour ça? On va ouvrir sans doute une filiale en Turquie et on va faire venir des Turcs. Mais ça, c'est les recettes de notre métier dans notre situation propre.
À l'image de son armée, l'économie ukrainienne souffre, mais elle ne s'est pas effondrée. Au moment de traverser la frontière, de quitter l'Ukraine, impossible de ne pas repenser au témoignage de Sofia. Cette jeune femme a perdu son travail le jour de l'invasion, quand les entreprises paniquaient, licenciaient en masse.
It was not my first priority.
Honnêtement, ça n'était pas ma priorité. Le même jour, ma famille a dû fuir Kiev parce que les soldats russes étaient tout près de notre maison. C'était déchirant de devoir tout abandonner. Je ne veux plus jamais revivre ça, plus jamais quitter Kiev contre ma volonté. Et puis quand je suis revenue ici, je me suis demandé, et si tout le monde était parti? S'il n'y a plus d'Ukrainiens, il n'y a plus d'Ukraine. En tant qu'Ukrainienne, ma place est ici. Je dois aider l'économie, payer mes impôts, aller au cinéma. C'est comme ça, en restant, que je peux aider.
L'Ukraine, une économie en guerre. Un grand reportage de Nathanaël Vitran et Jadel Khoury. Réalisation, Victor Hull.